a la chance d'avoir ce séminaire-là qui va être donné par Olivier Rioul, qui est professeur à Télécom Paris, qui est d'ailleurs un des experts où il a beaucoup travaillé sur tous ces problèmes de compression à l'époque. Mais ici, il va nous parler de quelque chose de très différent sur les problématiques de fuite d'informations. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ah, je m'entends, c'est bien. Merci beaucoup Stéphane pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de parler en ces lieux. Et donc je vais vous parler effectivement de fuite d'information. Alors avant de fuiter, peut-être revenir sur un certain nombre de concepts que vous avez vus, que vous avez pu voir au fur et à mesure du cours de Stéphane. Et juste pour vous faire part un petit peu de petites réflexions comme ça sur des quantités de théorie de l'information. Parce que bon, moi, j'aime beaucoup hein, l'entropie relative, divergence de Kullback-Leibler, entropie conditionnelle, information mutuelle, information de Fisher, toutes ces notions que vous avez vues. C'est bien, on donne des formules mathématiques, après on les applique à des problèmes et on voit que ça marche, c'est magique. Et moi, je me suis longtemps demandé comment Shannon il a pu faire pour trouver, par exemple, la quantité entropie, au-delà du fait que c'était relié à la physique, comme il a découvert plus tard, mais comment il a fait pour trouver une définition, finalement, qui lui permettait de résoudre son problème de compression, par exemple. Et en fait, si on lit Shannon, ce fameux article de 1948, on a la réponse. Shannon considère un long message. Donc, c'est un raisonnement asymptotique. C'est quelque chose que Stéphane vous avait fait, plus ou moins. C'est un long message avec beaucoup de symboles qui sont choisis de manière indépendante, comme ça, IID. Et puis donc, la probabilité d'une longue suite comme ça, d'un message, ça va être le produit des probabilités. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper les termes suivant les valeurs de symboles qui sont prises. Okay, donc, si n de x, ça désigne le nombre de symboles qui ont la valeur x, ça me fait une expression comme ça. Et là, comme c'est asymptotique, je peux appliquer la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres, elle dit quoi? Elle dit que la fréquence empirique, hein, donc le nombre relatif de symboles qui ont la valeur x, ça s'identifie à la probabilité. J'obtiens une formule où le p de x, la probabilité de chaque symbole, intervient deux fois comme ça. Et si je le mets sous forme exponentielle en prenant logarithme, hein, si vous voulez, eh ben, j'obtiens exactement la formule de l'entropie. Donc la formule d'entropie qui vient comme ça, naturellement, en considérant ce qui se passe d'une manière typique, c'est-à-dire qu'avec une très forte probabilité, si je tire une grande séquence au hasard, elle a toutes les chances pour que sa probabilité soit typiquement e puissance moins n fois l'entropie h. Hein, c'est un premier théorème. C'est ce que Stéphane vous a déjà présenté. Je pense que tu avais parlé du asymptotic equipartition property. Hein. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Shannon avec ça? Il a résolu le problème de la compression de données. En disant, ben voilà, comme il y a une probabilité quasiment égale à 1 qu'une suite soit typique, je m'intéresse que au codage des suites typiques, et donc il suffit que je puisse les dénombrer. Hein, et comme ça, le logarithme de leur nombre, ben, ça va être le nombre de bits que je dois dépenser. Alors combien il y en a? Combien il y en a? On a dit grand N. Puisque la probabilité d'être typique, ben, c'est quoi? C'est la somme des probabilités de chaque séquence, donc ça fait grand N fois e puissance moins NH. Ça, c'est égal à 1, plus ou moins. Presque égal à 1, donc il y a à peu près e puissance nh, séquence typique, hein, c'est l'idée de la compression, c'est-à-dire que l'ensemble typique il est tout petit par rapport à l'ensemble total de toutes les séquences possibles. Et c'est grâce à ça qu'on peut faire de la compression. Du coup, ben, le taux de codage, c'est quoi? C'est le nombre de moyens d'information. Alors là, c'est des unités d'information, si on prend des logs en base 2, c'est des bits, hein, par symbole. C'est log en base 2 de grand N sur N, disons, ça donne exactement H, l'entropie. Donc, on a démontré le premier théorème de Shannon, qui dit, l'entropie, c'est un taux de codage à partir duquel je peux faire une compression quasiment sans perte de ma source d'information. Et alors, on peut aller un peu plus loin en disant, on tire au hasard ces séquences, non pas selon la bonne distribution, mais selon une mauvaise distribution, qu'on va appeler Q de X. Quelle est à ce moment-là la probabilité qu'on soit à nouveau encore typique? Bon, donc là, c'est le même calcul, hein. C'est le même calcul, sauf qu'il y a un Q de X à la place du P de X ici. Le P de X qui est là, il est le même, hein, parce que c'est le type ici. Et donc, on obtient presque la même expression, sauf qu'il y a un P et un Q. Ça s'appelle l'entropie croisée. Cross-entropy en anglais. Donc, si on veut calculer la probabilité totale, du coup, on multiplie encore une fois par le nombre de séquences typiques, et ça nous donne exactement cette expression-là, e puissance moins n fois quelque chose que vous devez reconnaître, l'entropie relative, la divergence des Kullback-Leibler. Donc ça, c'est une définition opérationnelle, quelque part, de cette fameuse divergence. Et qu'est-ce qu'on a démontré ? Ben, on a démontré que la probabilité des typiques, si on n'a pas la bonne probabilité, c'est quelque chose qui va décroître exponentiellement vers zéro, parce qu'on sait que la divergence est positive. Alors, qu'a fait Shannon avec ça ? Ben, il a résolu un autre problème, pour lequel il est peut-être même plus connu encore que pour la compression, c'est le problème de la transmission. D'ailleurs, ce n'est plus du codage de source, c'est du codage de canal. Voilà, ça, c'est la fameuse figure de l'article original de 1948, hein, de Shannon. C'est-à-dire, on veut transmettre de l'information sur un canal, on va la transmettre sous forme de mots de code, donc c'est ça, les longues séquences de symboles, hein, et puis on va transmettre dans un canal qui va introduire du bruit, et donc on va recevoir un Y, d'accord, qui est bruité, et à partir du Y, le but du jeu, c'est de retrouver l'information, donc retrouver le mot de code qui a été émis. Retrouver le X chapeau, bah, de telle sorte, avec une probabilité d'erreur, si possible, la plus faible, et si possible, quasiment zéro. Alors, comment on fait ça ? Ben, Shannon a eu cette idée, donc on va utiliser un code avec un certain nombre de mots de code. Hein. Shannon a eu je pense que c'est une idée qui est intervenue pour la première fois dans la science, il me semble. Hein. C'est ce qu'on a appelé après la méthode probabiliste. C'est-à-dire que pour exhiber un bon code, il faut pas le construire, on ne va pas le construire directement. On va considérer l'ensemble de tous les codes et on va faire des performances moyennes sur l'ensemble de tous les codes. C'est-à-dire qu'on va regarder la probabilité d'erreur moyenne sur l'ensemble de tous les codes possibles en affectant comme ça une distribution de probabilité artificielle, si vous voulez. Et si on arrive à montrer que la probabilité d'erreur est faible, à ce moment-là, forcément, il existera au moins un code qui est bon, même si on ne sait pas lequel. D'accord ? Et probablement, beaucoup de codes seront bons aussi. Donc, c'est ce que Shannon a fait. Donc il a considéré, c'est ce qu'on appelle la méthode du codage aléatoire, ben, que les mots de code, ils étaient tirés au hasard. Voilà. Donc ça devient un peu complexe comme argument, mais c'est très intéressant, c'est vraiment une méthode probabiliste. Et donc, à partir de là, eh bien, on sait, d'après ce qu'on vient de voir, qu'avec une probabilité quasiment égale à 1, ce qu'on va recevoir en sortie du canal, ça va être conjointement typique avec ce qui a été émis, avec le mot de code qui a été émis, parce que x, y, ensemble, bah, ils suivent une distribution de probabilité conjointe P de x, y, donc ça sera conjointement typique avec cette probabilité-là. OK ? Et donc, le décodeur, ça va être un décodeur typique. En compression, c'est un codeur typique, que vous a expliqué Stéphane. Là, c'est un décodeur typique, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, le mot de code, c'est celui qui est typique de ce que j'observe, de ce que je reçois, y. OK. Le problème, c'est qu'il peut y avoir un autre mot de code qui, par malheur, est également typique, hein, également conjointement typique avec Y, mais ça, on sait l'évaluer, parce que c'est ce qu'on vient de faire dans le stade précédent. C'est-à-dire on a évalué ça comme étant E puissance moins N fois la divergence. La divergence entre quoi et quoi ? Bah, entre la vraie distribution de probabilité P, qui est la distribution de probabilité conjointe, et puis la mauvaise, c'est-à-dire Q de XY, c'est celle que vérifie l'autre mot de code, puisqu'ils ont été choisis indépendamment. Donc, c'est plus P de XY, c'est P de X fois P de Y. C'est-à-dire la distribution conjointe comme s'ils étaient indépendants. Et si on remplace ça, bah, qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient exactement l'expression de l'information mutuelle. Donc, voilà, ça, c'est une définition opérationnelle de l'information mutuelle. Okay ? Donc, ça, c'est pour un autre mot de code, et puis il y en a plein des autres mots de code. Hein. Voilà. Donc, si on fait le total sur tous les autres mots de code, il y en a grand N moins 1, bah, on obtient une expression comme ça, où cette fois-ci, le taux de codage, hein, c'est toujours log de grand N sur petit n, c'est-à-dire le nombre moyen, cette fois-ci, de bits d'information par symbole codé émis dans le canal. Et on s'aperçoit que la probabilité d'erreur totale, donc, en moyenne sur tous les codes, hein, ça va effectivement tendre exponentiellement vers zéro, à condition que le taux de codage ne dépasse pas l'information mutuelle transmise dans le canal. Et donc, là, on a démontré le deuxième théorème de Shannon, pour la transmission de données, ça résout complètement le problème de la transmission de données. Simplement, on peut encore maximiser cette borne pour avoir un taux de codage le plus fort possible, parce que c'est ce qu'on veut, on veut transmettre un maximum d'informations possibles dans le canal. Et ça, c'est ce qu'on appelle la capacité, cette valeur maximale. Voilà. Donc on dit que voilà, n'importe quel taux qui est inférieur à la capacité permet une transmission aussi fiable qu'on veut, avec une probabilité d'erreur aussi faible qu'on veut. Il y aura toujours un code, même si on ne sait pas le construire explicitement, qui va réaliser ça. Voilà. Donc ça, c'est le problème de transmission de données, qui est quand même un problème important. Je ne suis pas sûr qu'il ait été abordé dans ton cours. Voilà. Donc c'est quelque chose de, voilà, sur lequel, pour lequel Shannon est extrêmement connu. Hein. Voilà. Alors je voulais juste faire une petite remarque sur ces deux résultats, la compression et transmission. À chaque fois, ce sont des résultats asymptotiques. Hein, on utilise la loi des grands nombres, n tend vers l'infini. Et puis c'est des résultats qui permettent d'obtenir une certain compromis, une certaine borne. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce qui est important d'avoir aussi, ça c'est dans un deuxième temps, c'est ce qu'on appelle des théorèmes réciproques. C'est-à-dire ce qu'on veut aussi avoir, c'est que ces bornes-là sont effectivement optimales. C'est les meilleures possibles. Par exemple, l'entropie, est-ce que c'est la meilleure borne possible? La capacité, est-ce que c'est la meilleure borne possible? L'entropie serait une borne inférieure, la capacité serait une borne supérieure. Et la réponse est oui. Pourquoi? Grâce à des inégalités purement mathématiques. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de construction de code, il n'y a plus rien. C'est juste, on applique les outils de la théorie de l'information et on fait des inégalités. Alors voilà deux inégalités typiques qu'on utilise dans ce cas-là. Donc qui sont importantes en théorie de l'info. C'est d'une part l'inégalité du traitement de données. Qui dit quoi? Qui dit que quand on a une suite de traitements comme ça, eh ben, un traitement, ça ne peut jamais, en tant que tel, faire gagner de l'information. Ça ne peut que en faire perdre, quoi. Et donc, si on a deux variables plus éloignées dans la chaîne, ben, elles subissent plus de traitements, et par conséquent, l'information mutuelle entre les deux est moins grande qu'entre deux variables plus proches dans cette chaîne de traitement. Donc ça, c'est assez intuitif, et ça se démontre. Hein. C'est une inégalité mathématique qui se démontre très bien. L'autre inégalité sur laquelle je vais m'attarder aussi dans cet exposé, c'est l'inégalité de Fano. Alors, qui consiste à dire, voilà, je cherche à détecter ou à retrouver la valeur d'un x et en connaissant uniquement une observation y. Donc, j'estime x chapeau. Et là, j'ai une borne bon, supérieure sur, cette fois-ci, l'entropie conditionnelle de x sachant y par une fonction de la probabilité d'erreur qui va tendre vers 0 si cette probabilité d'erreur tend vers 0. Et ça peut se réécrire comme une borne inférieure sur l'information mutuelle, en fait. Hein. Et cette borne s'exprime en fonction de la divergence. Donc là, c'est un petit d parce que j'ai pris une divergence entre deux lois binaires, hein, entre ben, la probabilité de succès ou la probabilité d'erreur, hein, c'est 1 moins la probabilité d'erreur, et 1 sur m, ça serait la probabilité de succès si je ne connais rien. Donc je tape au hasard sur les m valeurs possibles. Et avec ces deux choses-là, donc ces deux inégalités-là, eh ben, on démontre que, effectivement, par exemple, pour le cadre du codage de source, hein, on applique les deux inégalités l'une après l'autre, et on démontre que nécessairement, quoi qu'il arrive, si la probabilité d'erreur, si sa compression est fiable, hein, le taux ne peut pas descendre en dessous de l'entropie. C'est une limite dure. Voilà. Et ça, c'est juste, bon, je trouve ça fascinant, c'est juste un résultat mathématique. Voilà. Même chose pour le codage de canal, c'est un peu un problème dual. On applique l'inégalité de traitement de données, là, l'inégalité de Fano, et hop, on a que si la transmission est quasi fiable, eh ben, on ne peut pas dépasser la capacité. C'est une limite dure aussi. Voilà. Alors, j'aime bien aussi faire le parallèle avec autre chose que vous avez vu dans le cours que Stéphane vous a renseigné, c'est la fameuse estimation paramétrique. Parce que là aussi, on a une longue suite comme ça de données. D'accord ? On fait aussi un raisonnement asymptotique. Les données suivent une certaine loi, donc on suppose qu'on connaît la façon dont P de θ dépend de θ, mais on ne connaît pas le vrai paramètre que tu as appelé θ étoile. Donc on cherche à estimer à partir des données, voilà, à partir du vecteur x. OK. Alors, comment on va traiter ça d'un point de vue théorie de l'info? Ben, on fait le même raisonnement. C'est-à-dire qu'on applique la loi des grands nombres au produit, donc là, si on prend le log, ça fait la moyenne hein, des logarithmes, des différentes composantes. On converge avec la loi des grands nombres vers quoi? Vers exactement l'entropie croisée, au signe près. D'accord? Ben, l'entropie croisée, elle intervient dans l'expression de la divergence. La divergence de Kullback-Leibler entre la vraie loi puis P de θ, hein, on cherche, qui est. Ben alors là, il n'y a plus le signe moins, mais enfin, vous voyez l'idée, hein, c'est que c'est minimum lorsque le paramètre θ est égal au bon paramètre θ étoile. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de dire, ben, je vais chercher à minimiser la divergence. Okay, la divergence, je l'obtiens après la loi des grands nombres, donc c'est asymptotique. Donc minimiser la divergence, ben, c'est retrouver le bon θ étoile. Et si on n'a pas encore convergé, si vous voulez, si on regarde les données, ben, ça équivaudrait asymptotiquement à maximiser la quantité qui est là. Pourquoi maximiser plutôt que minimiser? À cause du signe moins. Hein, mais la différence en réalité, c'est juste quelque chose qui est constant, donc voilà. Donc on prend le maximum de ça. Et ça, c'est quoi? C'est la log vraisemblance. Donc on a l'intuition que l'estimateur maximum de vraisemblance est celui qui va être optimal, asymptotiquement en tout cas. Et donc, géométriquement, ça c'est quelque chose que vous avez déjà présenté, je crois, Frank Nielsen, peut-être Jean-François aussi, Jean-François Cardozo a présenté ça. Voilà comment on peut tracer la divergence. Hein. Le θ étoile, le bon paramètre, il est obtenu comme le minimum. Si on annule la dérivée, on obtient un fait connu, à savoir que le score est de moyenne nulle. Et puis, si on regarde la courbure de la courbe, qui est l'inverse du rayon là, du cercle osculateur, eh bien, on s'aperçoit que c'est exactement l'information de Fischer qui est donnée par ces formules-là. Donc l'information de Fischer, là encore, une sorte de définition opérationnelle hein, de l'information de Fischer. Ah, la luminosité est meilleure peut-être pour vous maintenant. Voilà. OK. Si on se place du point de vue des données, donc avant convergence, on a la même figure, mais alors inversée à cause du signe moins qu'on avait. Hein, donc là, cette fois-ci, on maximise quoi? La log vraisemblance. La dérivée s'annule, ça veut dire que le score s'annule. Donc ça revient à démontrer que le θ chapeau, qui est la valeur du maximum, va converger vers le bon paramètre. Donc l'estimation est consistante, convergente, hein, synthétiquement. Et puis, si on regarde cette fois-ci la courbure, on peut démontrer comme ça facilement que l'erreur quadratique moyenne de l'estimation va être de l'ordre de 1 sur n fois l'information de Fischer. Voilà. Donc on a une certaine borne de performance. Et on a démontré le théorème qui est essentiellement dû à Fischer. Toujours, vous voyez, un peu les mêmes raisonnements. Raisonnement asymptotique, on obtient une borne. Alors, c'est quoi le théorème réciproque ici ? Le théorème réciproque, encore une fois, ça va provenir d'une inégalité mathématique. En l'occurrence, on utilise Cauchy-Schwarz. Et pour démontrer quoi ? La borne de Kramer-Rao. Borne de Kramer-Rao qui vous dit, cette limite-là, on ne peut pas descendre en dessous, en tout cas, pour, si on est sans biais, et c'est le cas ici, on a un estimateur asymptotiquement non biaisé. Voilà, donc c'est un petit peu le même parallèle que j'aime bien. Et je voudrais vous montrer un petit peu maintenant encore un autre domaine, parce que si on change de domaine, si on change de problème à résoudre, là on a vu la compression, la transmission, l'observation de données pour l'estimation de paramètres, si on change de problème, a priori, il n'est pas sûr qu'on ait exactement les mêmes quantités qui soient optimales, d'accord ? Et on va avoir des théorèmes réciproques d'une autre nature. Hein ? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit toujours les mêmes quantités, qu'ils soient les meilleurs ou les mieux adaptés au problème. Alors qu'est-ce qu'on va regarder, nous ? On va regarder ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça, c'est une carte, on va dire c'est un circuit intégré, d'accord ? On connaît bien ça. Circuit intégré qui fait une opération cryptographique dedans. Alors, c'est de la cryptographie embarquée souvent, hein, c'est-à-dire c'est de la cryptographie symétrique. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la crypto. Et puis là, qu'est-ce qu'on met ici ? On met une sonde. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est que d'un point de vue physique, le circuit lui-même, il fuit. C'est-à-dire, il y a quoi ? Il y a des émanations électromagnétiques, il y a des consommations de puissance, il y a même peut-être du bruit acoustique hein, qui peut être quelque part un signal qui va révéler ou qui va être corrélé en tout cas un petit peu avec le secret qui est les clés secrètes qui sont utilisées dans l'algorithme. Ah. Donc c'est vraiment une fuite physique. Bon. Et donc ça a été exploité, ça date d'il n'y a pas longtemps, les années 2000 à peu près, hein, c'est pour la première fois, on a exploité ça pour retrouver des clés secrètes. Hein. Voilà. Alors comment on fait ça ? Juste un mot auparavant. Normalement, un algorithme de crypto symétrique comme ça, c'est une boîte noire. Hein, c'est-à-dire que la crypto a été bien faite. Il y a par exemple ce que vous connaissez peut-être, l'AES. L'AES, Advanced Encryption Standard, 256 bits par clé. C'est quelque chose qui est incassable, hein, normalement. C'est-à-dire que si on connaît le texte en clair, qui est là, disons, et le texte chiffré qui est là, même si on connaît ces deux choses-là, on ne peut pas retrouver la clé, sauf à essayer toutes les possibilités, ce qui nous prend à peu près l'âge de l'univers. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est hors de question. En revanche, si on a des fuites, vous voyez, on a une sorte non plus de boîte noire, mais une boîte grise, comme on dit, c'est-à-dire on a de la radiation électromagnétique, etc., de différentes sortes de fuites d'informations, et ça, on va pouvoir l'exploiter. Alors, comment il fait l'attaquant en pratique ? Il a une plateforme comme ça, l'acquisition. Donc, vous retrouvez cette figure-là, on a cette sonde, on envoie ça dans un oscilloscope, okay, on moniteur ça avec. on envoie un texte en clair, on récupère des textes cryptés, etc. Et donc, on a plusieurs traces comme ça, on a plein de traces de signaux, on peut le faire fonctionner plusieurs fois. Hein. Et puis, éventuellement, 1000 fois, 1 million de fois, peut-être. Hein. Et puis, avec toutes ces mesures-là, c'est énorme hein, comme données, hein, eh ben, on va essayer de faire une analyse statistique et puis faire une estimation avec des modèles, éventuellement, de fuite et des choses comme ça. Alors, si on est vraiment très fort, si on a beaucoup de puissance de calcul, bah, l'attaquant, il va... Pourtant, je devrais être connecté, mais tant pis. L'attaquant, il va même être capable de faire ce qu'on appelle un profilage, c'est-à-dire avec une phase d'apprentissage et une phase d'attaque. Phase d'apprentissage, il dispose d'un circuit, par exemple, je sais pas, la puce de votre carte bancaire, il dispose d'une copie, où il peut exactement mettre les clés qu'il veut. Et puis comme ça, il a plein de modèles, ce qu'on appelle des templates. Donc il apprend toutes la manière en réalité dont le circuit va fuir réellement. Et puis ensuite, il va adapter ça, il va faire en deuxième phase d'attaque, il va utiliser ces modèles pour attaquer. Voilà. Donc ça peut être extrêmement puissant hein, comme type d'attaque. C'est-à-dire que si votre circuit n'est pas protégé, au bout d'une centaine de mesures, c'est plié. Hein. D'accord ? Donc c'est un véritable danger voilà, pour tous les systèmes crypto. Hein. Donc c'est énorme. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, d'un point de vue mathématique ? Donc, ce qu'on va faire, c'est... Non, on va d'abord se placer du point de vue de l'attaquant. D'ailleurs, on va essayer de produire des attaques optimales, parce que ce qu'on aimerait savoir, c'est, au pire, quel est le taux de succès maximum qu'on peut attendre pour un certain nombre de mesures, hein, si on est capable de faire un certain nombre de mesures. Ou, d'une manière équivalente, quel est le nombre minimal de mesures qu'il faut faire pour atteindre tel ou tel pourcentage de succès, 95% par exemple. Voilà. Et ça, il faut être capable de le faire pour n'importe quel type d'attaque. Alors, il y a de nombreuses attaques qui ont été publiées dans la littérature. Hein. Voilà, donc, different of means, different power analysis, correlation power analysis, linear regression analysis, mutual information analysis, etc. etc. Et sans compter toutes les attaques qui ne sont pas encore publiées. Donc c'est un vrai problème pour le concepteur de circuit de savoir est-ce que je pourrais être résistant aux attaques futures. Bon. Et évidemment, en supposant que l'attaquant connaît tout, hein, sauf le secret bien sûr, mais il connaît tout, c'est-à-dire il connaît la manière dont le circuit fuit, il a un très bon modèle, etc. Hein, de sorte à avoir vraiment les performances optimales possibles. Voilà. Eh bien, donc pour ça, ben, on va formaliser. Donc voilà comment se passe le traitement, si vous voulez. Alors ce n'est pas vraiment un canal de communication, hein, parce que ici on a la clé secrète. C'est juste une fuite, bon c'est pas volontaire. Hein. Donc c'est un canal qu'on appelle un canal caché. Un canal caché, side channel. Donc là, il y a l'algorithme de crypto qui utilise le secret et qui le combine avec le texte en clair. On a ici ce qu'on appelle une variable sensible. Ça, on connaît, on sait comment ça se passe. Hein, c'est dans l'algorithme. Bon, il y a des variables qui dépendent des secrets, qui sont stockées quelque part. Et puis, ça fuit. Ça fuit avec une certaine fonction de fuite qu'on est capable plus ou moins de modéliser. Alors, des fois, on utilise, par exemple, le poids de Hamming en sortie d'un S-box dans l'AES. Bon, on a un certain nombre de possibilités de modèles hein, sur lesquels je ne vais pas rentrer en détail. Et puis, tout ça, on va le mesurer. On va le mesurer dans un bruit de mesure, éventuellement, hein, qui est... Un bruit de mesure, par exemple, gaussien. Et ensuite, on va faire une attaque. Donc, l'attaquant, il connaît évidemment le texte également. Hein, donc, il a cette information annexe sur le texte. Voilà. Donc, éventuellement, on peut intégrer ici des contre-mesures. C'est-à-dire qu'il existe un certain nombre de contre-mesures qui est déjà dans les circuits du style masquage, etc., qu'on pourrait intégrer là-dedans dans le système. Et on cherche donc l'attaque optimale. Alors, comment on va trouver l'attaque optimale ? Ben, c'est un problème qu'on appelle un problème de test d'hypothèse bayésien. C'est-à-dire, bon, ce qui revient au même, à détecter une certaine valeur d'un secret. Voilà. On a un canal caché, donc, et on a une observation, l'observation bruitée, hein, qu'on a de la sonde. Alors, on met des points d'intérêt, enfin, il y a des tas de choses, j'allais dire, pratiques, hein, qu'on va faire. Mais grosso modo, on a une variable aléatoire y. Et on cherche à trouver le meilleur estimateur de sorte à minimiser la probabilité d'erreur ou à maximiser la probabilité de succès. Et ça se démontre très bien, hein, c'est très facile. C'est ce qu'on appelle la règle du maximum a posteriori. Peut-être que Stéphane, peut-être que tu l'as mentionné dans le cours, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'estimation optimale, ça va être en réalité une fonction déterministe de l'observation, en disant bah, le X chapeau, c'est celui qui va maximiser la probabilité a posteriori. D'accord ? P de X sachant Y. Et du coup, le succès maximal aura cette expression-là. Ce sera la moyenne du maximum des probabilités a posteriori. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la règle MAP. Bon, maximum a posteriori. C'est ce qui est a priori optimal. Alors, si les clés secrètes là sont a priori équiprobables, par exemple, ça revient à faire du ML, donc du maximum likelihood ou du maximum de vraisemblance. Voilà. Mais bon, dans le cas général, c'est du MAP. Et donc, on a des performances qui sont, j'ai pris cette notation, la PS de X sachant Y. PS de X ne sachant pas Y, ben, c'est ce qu'on obtient sans aucune connaissance. D'accord ? Si on n'a aucune mesure. Bon. Et donc là, on a déjà un premier théorème, une inégalité des traitements de données. Hein ? C'est-à-dire que si on traite l'observation, ben, ça ne peut que dégrader les performances, en fait. Hein ? Et en particulier, naturellement, si je ne sais rien, ben, j'obtiens une probabilité de succès évidemment très inférieure à la probabilité de succès que je peux obtenir si j'exploite de l'information cachée. Voilà. Donc ça, c'est facile à démontrer aussi. Ah, il y a un autre critère qui est utilisé dans ce domaine-là par les gens qui font du side channel pour les circuits sécurisés. Et cet autre critère, il est intéressant aussi. C'est ce qu'on appelle le guessing entropy. Alors, je n'ai pas trouvé d'équivalent en français, on va dire entropie de divination, hein, quelque chose comme ça. L'idée, c'est quoi ? Comme vous l'a expliqué Stéphane, hein, si on veut coder une information, on peut le coder par des bits. Les bits, ça peut être vu comme une réponse à une question, hein, oui ou non. Et donc, si je veux vous faire deviner un nombre au hasard, enfin, je ne sais pas, entre 1 et 100, si vous posez n'importe quelle question, il y a une stratégie optimale, c'est de faire de la dichotomie. C'est de couper en deux les probabilités. Hein ? Et si vous faites ça, eh ben, vous allez faire en fait, un code à longueur variable optimale. Vous prenez l'algorithme de Huffman, par exemple. Et ça va vous donner un nombre moyen de questions qui va s'approcher de l'entropie. D'accord ? Donc ça, vous l'avez vu. Par contre, quand on est dans les systèmes cryptographiques, là, on ne peut pas se permettre de poser n'importe quelle question. Ce n'est pas possible hein, au circuit. Hein. On ne peut que faire une seule chose, c'est d'essayer la clé. Ou bien ça marche, ou bien ça ne marche pas. Donc la seule question qu'on peut poser, c'est est-ce que la clé, c'est ça ? Ou est-ce que ce n'est pas ça ? D'accord ? Et à ce moment-là, ben, la stratégie va être différente. Ça va plus être, on ne va plus procéder par dichotomie, et le nombre moyen de questions, il va augmenter énormément. Et ça, c'est ce qu'on appelle le guessing entropy. D'accord ? C'est G de X, c'est plus H de X. Voilà. Donc, alors, quelle est la stratégie optimale ? La stratégie optimale, c'est quasiment évident, c'est de dire, ben, si j'ai a priori une hypothèse de clé qui est la plus probable, je vais essayer d'abord celle-là. Puis après, j'essaye celle qui est la plus probable parmi les restantes, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, en faisant ça, on obtient l'expression de la guessing entropy, qui est une sorte d'espérance de la distribution de probabilité, mais pour des probabilités qui ont été triées par ordre décroissant. Voilà. Et avec de l'information annexe, hein, ça nous donne aussi une guessing entropy conditionnelle, pour le coup. Voilà. Et là aussi, on a un théorème, on a une inégalité de traitement de données, hein, qui est que, par exemple, si je ne connais rien du tout, bah, évidemment, mon guessing entropy va être beaucoup plus grand que si je connais quelque chose. D'accord ? Voilà. Et ça se démontre assez facilement également. Voilà. Donc, toutes ces quantités-là, vous voyez, elles ont un air de famille. Elles ont un air de famille. Et effectivement, en pratique, hein, c'est ce qu'on utilise. Hein. On utilise soit la probabilité de succès, qu'ils appellent success rate, soit le guessing entropy, pour évaluer les performances de différentes attaques. Par exemple, ici, voilà, j'ai tiré ça d'un article un peu au hasard. Hein. Vous avez un taux de succès qui va donc monter de 0 à 1, typiquement, en fonction du nombre de mesures, hein, nombre de mesures utilisées. Donc, par exemple, la courbe en rouge, là, c'est probablement la meilleure attaque, ici. Hein, d'accord ? Et puis sur le guessing entropy, c'est le contraire. Hein. Le guessing entropy va décroître, puisque au départ, quand on ne connaît rien, ben, le guessing entropy, a priori, ça va être grosso modo la moitié du nombre de possibilités. Hein. Voilà. Et puis ça va descendre, ça va descendre jusqu'à la valeur minimale qui est 1, hein, c'est au cas où bon, on n'a plus qu'une seule clé qui est probable et puis toutes les autres ont été éliminées. Voilà. Donc ça va décroître comme ça. Et donc vous voyez, le courbe en rouge, c'est celle qui est la meilleure ici. Donc ça, c'est vraiment utilisé en pratique par les gens qui font des attaques. Et on aimerait en savoir plus sur ces quantités-là. Faire le lien aussi entre ces différentes quantités. Et une manière de faire, c'est d'utiliser alors quelque chose qui est plus flexible. On va introduire un paramètre alpha. Le alpha, il va être compris entre 0 et plus infini. D'accord ? Et on va définir une notion d'entropie que vous connaissez déjà peut-être, hein, qui est utilisée depuis longtemps, par Reigny en 1961, donc ça ne date pas d'hier, qui est définie comme ça. Bon, qui est définie comme ça. Alors, j'ai pris une mesure mu, c'est ce qu'on appelle une mesure dominante, c'est-à-dire si mu, c'est une mesure discrète, ça nous renvoie dans le cas discret, et si mu, c'est la mesure de Lebesgue, ça nous renvoie dans le cas différentiel, hein, l'entropie différentielle. Bon. Avec des propriétés différentes dans chacun des cas. Ça, c'est la définition de l'alpha-entropie conditionnelle. Alors, il y a plusieurs définitions qui existent dans la littérature. Moi, j'ai pris celle que je préfère, enfin, celle qui est la meilleure, celle qui est la bonne, à mon avis, qui consiste à moyenner, suivant la variable conditionnée, à l'intérieur du logarithme. Vous voyez ? D'accord. Ça, c'est la définition d'Arimoto, qui a toutes les bonnes propriétés, et entre autres, devinez quoi ? L'inégalité du traitement de données. D'accord ? L'inégalité du traitement de données, qui dit bien que si je connais quelque chose, la connaissance va réduire l'incertitude, va réduire l'entropie. Voilà. C'est typiquement... Et plus je connais les choses, plus ça réduit l'entropie. Voilà. Et là, donc, on a toute une famille de quantités. Donc, ça rend les choses plus flexibles, donc c'est plus intéressant. Et toute une famille de quantités. Pour alpha égale 1, on retombe sur les quantités classiques de Shannon, à la Shannon. Pour alpha égale 0, on trouve log du nombre de possibilités. Hein. Bon, c'est du Hartley. Et puis, pour alpha infini, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ah, on retrouve les probabilités de succès optimales pour le MAP, pour l'estimation MAP. Donc, ça fait tout un pont entre ces différentes théories, en réalité. Voilà. Alors, il y a aussi un lien intéressant avec le guessing entropy, qui n'est pas encore clairement établi à l'heure actuelle, mais il y a des inégalités dues à Harican qui montrent que en fait, la guessing entropy, ça serait assez proche de l'entropie d'ordre 1,5. Bon, H1,5. Okay. Ça a été exploité récemment pour attaquer des systèmes crypto, enfin pour mesurer les fuites des systèmes cryptographiques, hein, mesurer des guessing entropy. Parce que mesurer une guessing entropy pour un schéma complet, c'est difficile, c'est exponentiellement difficile. Et grâce à ces inégalités-là, grâce aux bonnes propriétés de l'entropie, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Bon, voilà. Donc, ça a été exploité. Voilà. Donc, qu'est-ce que la théorie de l'information alpha, plus généralement ? Eh bien, c'est de définir toutes les quantités qu'on connaît en théorie de l'information classique, mais à la alpha, quoi, en introduisant un paramètre alpha. Donc, ça peut être aussi la divergence, hein, alpha-divergence, l'information mutuelle, alors là, c'est l'alpha-information, et même l'alpha-information conditionnelle. Ça existe aussi. Voilà. Avec toutes les bonnes propriétés qu'on aimerait, évidemment. C'est-à-dire, inégalité de traitement de données, etc. Inégalité de Fano également, et ainsi de suite. Hein. Toutes les propriétés qui nous permettent de trouver les bornes. Hein, les théorèmes, les fameux théorèmes réciproques. Voilà. Et avec, évidemment, les cas limites qui nous intéressent. Bon. Alors, comment on fait ça ? Ben, je vais vous présenter donc, ces quantités-là. Hein. La divergence. Alors, la divergence, elle est définie comme ça. Alpha sur alpha moins 1, log d'un certain une sorte de produit là, qui dépend de alpha, d'accord, et qui a les bonnes propriétés. Alors, dans l'expression binaire, par exemple, c'est ça, hein, dans le cas binaire. Quand alpha tend vers 1, on retrouve évidemment Kullback-Leibler. Une propriété intéressante qui est importante pour toutes les quantités que je vais définir maintenant, c'est que ça ne dépend pas du choix de la mesure dominante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est un terme technique. Ça veut dire que, qu'on soit en discret, en continu, ce qu'on veut, on va avoir les mêmes propriétés. Hein, ce n'était pas le cas pour l'entropie, c'est le cas, par exemple, pour l'entropie relative. Par exemple, l'entropie relative est toujours positive, même si on manipule des quantités continues ou discrètes, c'est toujours positif. Donc, ça a les bonnes propriétés. Et alors, pourquoi c'est positif, justement ? À cause d'une certaine inégalité hein, qu'on voit ici, c'est l'inégalité de Hölder, en fait, pour alpha inférieur à 1, ou reverse Hölder, dans l'autre sens, pour alpha supérieur à 1. Donc, on arrive à démontrer facilement que c'est toujours non négatif. OK. Et puis, il y a les propriétés également d'expansion. Dans le cas où une des variables suit une loi uniforme, hein, on a évidemment une décomposition où on retrouve ici l'entropie alpha, l'entropie de Rémy. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'inégalité de traitement de données qui est importante. D'accord ? Alors, l'inégalité de traitement de données, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si on a un certain traitement, alors ça, c'est défini par une probabilité conditionnelle comme ça, hein, Y, c'est la sortie, X, c'est l'entrée. Donc, on a le même traitement ici, mais si on a deux entrées différentes qui correspondent à deux sorties différentes, eh bien, la divergence entre les deux sorties est plus basse. C'est-à-dire que le traitement fait perdre de la divergence. Voilà. Alors, comment on démontre ça ? Ben, ça se démontre très facilement avec une sorte de formule de développement, vous voyez, suivant les probabilités conditionnelles du fameux produit alpha, là, en utilisant toujours l'inégalité de Hölder ici. Donc ça se démontre assez simplement, et c'est une quantité, enfin c'est un résultat fondamental pour ce qui va suivre. Donc par exemple, si on s'amuse à faire une transformation binaire, donc où la sortie est binaire, donc on teste si X appartient à A ou pas, voilà, eh bien on a comme borne inférieure sur la divergence, donc une divergence de loi binaire qui correspond aux différentes probabilités d'appartenir à A ou pas. Voilà. Et puis on peut aussi généraliser avec des canaux binaires. Bon, je passe sur ces détails-là. Voilà. L'alpha-information, c'est quoi ? Ben, l'alpha-information, elle va être définie aussi à partir de l'alpha-divergence. Hein. L'alpha-divergence, comment on peut voir l'information mutuelle ? On peut la voir comme une sorte de quantité moyenne d'une divergence de la loi sur X quand je connais Y et quand je ne connais pas Y. Parce qu'elle diffère, hein. Si je connais Y, ça diffère du fait que je ne connais pas Y. Donc ça me donne quelque part une quantité d'information qu'apporte Y sur X. Donc en l'occurrence, la divergence entre la loi X sachant Y et la loi X ne connaissant pas Y, on connaît l'expression. Et pour trouver une quantité moyenne à ça, je fais la moyenne encore une fois sous le logarithme pour obtenir la bonne définition, selon moi, de l'alpha-information. Il y en a plein d'autres qui ont été publiés dans la littérature. Ça, c'est celle de Simpson, hein, qui a une formule explicite comme ça, qui paraît compliquée. Et bien sûr, c'est indépendant. Donc, encore une fois, ça aura toutes les bonnes propriétés. C'est indépendant de la mesure dominante. Il y a des propriétés également de décomposition. Hein, on retrouve l'entropie conditionnelle si une des deux est uniforme. Par contre, c'est plus mutuel. C'est pour ça que je l'appelle plus information mutuelle. Hein. C'est-à-dire que l'information apportée par Y sur X, c'est plus celle apportée par X sur Y. Donc, il y a quand même des propriétés sympathiques qu'on perd un peu. OK ? Et puis on a la fameuse formule qui fait tout marcher, qui s'appelle la Golden Formula, on peut dire l'identité de Simpson, qui provient encore une fois d'un développement comme ça en termes de probabilité conditionnelle. On trouve en particulier que l'information mutuelle en réalité c'est finalement le minimum d'une divergence. Voilà. Et ça c'est la bonne définition. Et donc, ça montre en plus que c'est positif et que ça ne s'annule que dans le cas de l'indépendance, hein, comme pour la formation mutuelle classique. Et encore une fois, grâce à ça, on a l'inégalité du traitement de données. La fameuse inégalité, on a exactement la même, que alpha soit égal à 1 ou pas. Donc, on a vraiment généralisé complètement cette propriété qui est absolument indispensable pour trouver des bornes, pour trouver des théorèmes réciproques. Juste pour dire qu'on peut aussi généraliser ça à l'information mutuelle conditionnelle. Donc c'est ce qu'on a fait. Pourquoi on a dû le faire ? Parce que ici il y avait le texte en clair ou le texte chiffré qui était connu de l'attaquant. Donc c'est un conditionnement supplémentaire. Donc il fallait définir également une alpha-information conditionnelle dans ce cadre-là. Donc on a fait la bonne définition encore une fois avec toutes les bonnes propriétés qu'on voulait pour que ça marche. Voilà. Alors là, je vous donne d'autres définitions qui étaient proposées dans la littérature. Entropie, alpha-entropie, alpha-entropie conditionnelle, il y a plein d'autres définitions. Alpha-information conditionnelle, il y a plein de choses qui existent. Bon, on a trouvé que les définitions que je vous ai présentées étaient les meilleures parce qu'elles vérifiaient toutes les bonnes propriétés. Alors que certaines de ces définitions-là, à chaque fois, il y a une propriété qui manquait. Voilà. Tout ça pour dire que c'est toujours d'actualité, hein, tout ça. C'est une théorie en construction. Alors, comment on va utiliser tout ça ? Eh bien, on va utiliser tout ça essentiellement avec un ingrédient qui est l'inégalité de Fano. Hein, donc, on a l'inégalité de traitement donné, il nous manque l'inégalité de Fano pour conclure, hein, pour avoir vraiment des bornes sur les performances. Alors, voilà une inégalité de Fano. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois, dans le même cadre que Fano, hein, on doit retrouver la valeur de x à partir d'une observation y, c'est le x chapeau, d'accord. On va utiliser le théorème des traitements de données, d'accord, en disant x chapeau, hein, la formation mutuelle entre, enfin la formation alpha plutôt entre x et x chapeau, elle est inférieure à celle entre x et y, hein, puisque sont plus éloignés dans la chaîne. Et puis ça, on sait que c'est une divergence, c'est une valeur particulière d'une divergence minimale. On peut également appliquer à ce moment-là le théorème des traitements de données pour la divergence, où on va obtenir ici exactement la probabilité de succès optimale du MAP. Voilà. Et une autre probabilité, alors qu'on peut évaluer, etc., et on peut démontrer à ce moment-là que finalement la borne, c'est bien la borne, c'est bien la divergence, l'alpha divergence entre la probabilité optimale du MAP et celle qu'on a sans connaître aucune donnée, aucune observation. Voilà. Donc ça, c'est l'inégalité de Fano dans ce cadre-là, le cadre le plus général. Et qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, si on est capable d'évaluer l'information mutuelle, du coup, ça va nous donner une borne sur les performances. Hein, une borne supérieure sur les performances, sur la probabilité de succès, sur le taux de succès. Donc là, je ne parle pas du guessing entropy, hein, uniquement du taux de succès, pour n'importe quelle attaque, en fait, n'importe quel type d'attaque, parce que ça va s'appliquer à n'importe quoi, c'est juste des inégalités mathématiques. Et on a fait ça donc, dans le cadre donc, que je rappelle ici, hein, avec de l'AES, avec un... Alors, on a introduit un modèle de fuite, pourquoi? Ben, pour connaître l'attaque optimale, comme ça on peut comparer. Mais dans la réalité, on a des données réelles, on n'a absolument aucune idée de la manière dont les circuits fuient. Hein. Mais néanmoins, les résultats théoriques peuvent s'appliquer. Parce qu'on est toujours capable d'évaluer l'alpha information. Donc, on est capable d'avoir des bornes sur le taux de succès pour n'importe quel type d'attaque. D'accord? Voilà. Et donc, le théorème, donc si on applique l'inégalité de traitement de données, l'inégalité de Fano, etc., on obtient, en fait, donc conditionnel, hein, il faut travailler un peu, on obtient cette borne-là. Voilà. Et à ce moment-là, on est capable d'évaluer numériquement, si vous voulez, par une simulation type Monte Carlo, l'alpha-information. Qui nous donne la borne supérieure sur l'alpha divergence et donc une borne supérieure sur la probabilité de succès. Hein, donc, en fonction du nombre de traces, hein, du nombre de mesures, hein, les x et y, pourquoi ils sont en gras? Parce que ce sont des vecteurs, hein, de taille q, en fait. Hein. Voilà. Et ce qui revient au même, donc, on va obtenir des bornes inférieures sur le nombre de traces minimum qui est possible d'avoir pour atteindre tel ou tel niveau de succès. Voilà. Et alors, donc, je vous donne les résultats et on va pouvoir comparer aux attaques optimales. Donc, en l'occurrence, c'est du maximum likelihood, hein, ou du MAP. Donc, voilà les attaques optimales. Voilà les bornes d'abord. Et alors, c'est intéressant de faire varier alpha pour voir quelles sont les meilleures valeurs de alpha. Hein. Donc, en pointillé, là, par exemple, vous avez le Shannon classique, hein, alpha égale 1. Donc ça, c'est une borne supérieure sur le taux de succès. Ça veut dire qu'au-dessus de la courbe, c'est une zone interdite. Les attaques ne peuvent pas... C'est une borne supérieure sur les probabilités. Donc on garantit qu'on ne peut pas être au-dessus, finalement. Si alpha est plus petit, donc vous voyez 0, 0,20, 0,25, etc., là, on obtient des bornes qui sont moins bonnes. D'accord ? Les meilleures bornes, on va les atteindre, et d'ailleurs rapidement, quand alpha va augmenter. Ce qui est d'ailleurs quelque chose d'intéressant, parce que théoriquement, ça va être alpha égale infini, mais là, on voit que alpha égale 2, alpha égale 4, ben 4, c'est déjà l'infini. Hein. Donc ça donne des calculs assez simples de bornes. On n'a pas besoin de monter à des valeurs de alpha terribles. Et comparons aux attaques optimales, donc suppose qu'on connaît tout, on connaît le modèle de fuite, on fait des simulations, donc on est dans la bonne situation. Hein. Et donc, voilà les attaques optimales. Donc voilà, alors avec une petite marge d'erreur, hein, voilà les attaques, maximum likelihood, MAP si vous préférez, qui sont appliquées à ce système. Et donc on voit qu'on colle exactement, évidemment, à l'optimal. Voilà. Alors si on voit les choses de manière duale, hein, on regarde les bornes inférieur, donc minimum, sur le nombre de mesures, le nombre de traces, pour obtenir un niveau de succès de 95%. Voilà. En fonction, alors cette fois-ci, en fonction du bruit, en fonction du bruit, parce qu'il y a du bruit dans le canal caché. Donc, si le bruit est grand, forcément, il y aura besoin de plus de mesures. Donc là, on a les formules qui sont données par les bornes avec alpha égale 1, c'est la courbe en violette. Voilà, ici, on a alpha égale un peu plus que 1, alpha égale un peu moins que 1. Et en bleu, c'est les attaques optimales. D'accord ? Donc là, on a bien une borne inférieure. Si on va un peu plus loin, donc alpha égale 1,5, alpha égale 2, donc on augmente les valeurs de alpha dans un sens ou dans l'autre, on s'aperçoit que c'est les valeurs de alpha grandes, naturellement, qui vont coller aux attaques optimales. Donc alpha égale 4, ça colle déjà, puis alpha égale 100, là, il n'y a plus de problème. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant dans la mesure où ce sont des résultats qui viennent de la théorie de l'information, mais qui sont totalement indépendants du type d'attaque. Donc ça perturbe des fois un peu la communauté, c'est-à-dire que ce n'est pas lié à une attaque donnée. C'est vraiment être capable de dire à un concepteur de circuit, ben voilà, au pire, n'importe quelle attaque qui pourrait venir en l'an 2060, j'en sais rien, n'importe quelle attaque, ne va pas faire mieux que ça. Évidemment, c'est des bornes assez, gros, assez mauvaises, entre guillemets, hein, si on revient... Si on revient à cette courbe-là, on s'aperçoit qu'au bout de, je sais pas, 25 mesures, on est déjà à 95%. Ça veut dire que le circuit, il est extrêmement simple, il n'est pas du tout sécurisé. Par contre, on peut très bien envisager des contre-mesures qui font qu'au lieu d'avoir 25 ici, on a 25 000. Donc ça sera déjà beaucoup plus sécur en termes de conception de circuit. Donc ça, c'est un guide pour... C'est voulu comme un guide pour les concepteurs de circuits pour dire, voilà, on peut garantir que votre fuite d'information elle ne va pas être trop importante de sorte à ce que l'attaquant va toujours y arriver s'il fait un milliard de mesures. Mais bon, il faut quand même qu'il ait beaucoup de puissance de calcul pour y arriver. Voilà. Okay. Voilà. Donc tout ça, ça a été fait, c'est un travail d'équipe qui a été fait par plusieurs personnes, dont certaines se trouvent ici. Hein, donc Wei Cheng qui a beaucoup travaillé sur les figures que je vous ai données, hein, c'est lui qui les a faites. Mon autre doctorante, là, Yi, voilà, Patrick Solé, Claude Carlet, Sylvain Ménager, Jean-Luc Danger, Sylvain Guillet, Sébastien Carré. Voilà, on a une petite équipe qui travaillons sur des problèmes similaires. On n'a pas tous travaillé sur le même sujet, mais sur des sujets similaires liés aux attaques sidechain et au codage. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.